Quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Ça se dispute avec ce samedi. Julien Drey, merci d'être avec nous, cher Julien.
Bonsoir.
Et Alexandre Devecchio, rédacteur en chef Le Figaro. Cher
bonsoir.
Alexandre, bonsoir. Et merci aux téléspectateurs, car je rappelle qu'hier, pour Ça se dispute, nous étions quasiment 500 000 téléspectateurs.
Et on va essayer de faire aussi bien.
Ah bah vous avez la pression.
Plus dur le samedi, mais...
Non, jamais.
J'ai rien dit moi.
Rien.
Aucun commentaire.
Aucun commentaire, juste remercier les téléspectateurs pour leur fidélité. Le point sur l'information et on commence le débat dans un instant.
La mairie de Lille demande à 9 habitants supplémentaires de la rue Pierre-Mauroy de quitter leur domicile une semaine après l'effondrement de 2 immeubles causant la mort d'une personne. Des expertises sont actuellement réalisées pour vérifier l'état des bâtiments qui auraient pu être impactés. Ces évacuations sont donc à titre préventif, précise la mairie dans l'attente de vérification. Des larmes, des sourires et des tirs d'artillerie pour célébrer la réouverture de la gare de Kherson, fermée depuis 8 mois, et l'arrivée du premier train de Kiev, train par lequel des familles séparées par la guerre et l'occupation russe se sont retrouvées. La semaine dernière, plus de 100 ouvriers ont travaillé d'arrache-pied pour dégager et réparer près de 60 km de voies avec des équipes de déminage. Et puis J-1, avant le coup d'envoi du mondial de football, les Bleus, tenants du titre, se sont entraînés pour la première fois hier à Doha. Ils feront leur entrée en lice mardi contre l'Australie. Le Qatar, pays organisateur, affrontera l'Équateur demain en match d'ouverture.
Voilà pour le point sur l'information. On va commencer avec cette actualité malheureusement dramatique. Et ce qui est sidérant également, c'est de voir à quel point... Alors, comparaison n'est jamais raison, évidemment, mais les histoires se répètent. Il y a eu l'affaire Lola, Justine Vérac... Une jeune fille de 14 ans a été retrouvée morte. Elle n'avait plus donné signe de vie vendredi dans le Lot-et-Garonne après sa sortie du collège. Et ce sont ses parents qui ont signalé sa disparition. Le principal suspect a été interpellé très rapidement grâce au travail des forces de l'ordre. Il est passé aux aveux. On va rejoindre notre envoyé spécial Thibault Marcheteau à Tonneins devant le collège de la victime. Merci d'être avec nous, cher Thibault. Je le disais, la sidération, l'effroi dans cette commune de 9000 habitants et... Je le disais en préambule, l'histoire se répète dramatiquement. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est dans la forme, pas forcément sur le fond, mais parce que vous avez couvert pour CNews l'affaire Lola et l'affaire Justine Vérac. Et j'imagine que vous avez pu interroger ces familles, ces habitants qui sont aujourd'hui pris d'effroi.
Effectivement, Elliot, l'effroi, comme vous le disiez, un village abasourdi, une commune abasourdie, commune de 10 000 habitants. Depuis que nous sommes arrivés ici, on assiste à une situation comme vous le décrivez en plateau. On est à proximité de ce collège où les personnes ont tenu à apporter un mot, une bougie, une fleur pour rendre hommage et surtout soutenir la famille de Vanessa. Certains ont accepté de répondre à nos questions. Je vous propose de les écouter.
Elle est dans la même classe que ma sœur. Ça fait un choc parce que quand t'apprends que quelqu'un a été enlevé, que t'as déjà vu, etc., ça fait bizarre. Ouais.
C'est proche de notre village, donc ça nous touche personnellement. On se sent concerné. C'est juste à côté de chez nous.
Ça faisait bizarre en vrai, parce que ça aurait pu être moi ou quelqu'un de ma famille.
Je suis une parente d'élève, j'ai ma petite fille dans la voiture, qui fait la route matin et soir à pied aussi. Et je me dis qu'à le même âge que cette petite fille, ça pourrait plus lui arriver à elle. Voilà. Donc voilà. Très touché pour la famille, pour tout le monde.
Voilà, tous parlent d'un collège très calme, d'une ville très calme, et personne n'aurait pu penser que ce drame puisse arriver ici dans le Lot-et-Garonne. Ce sont des heures très compliquées et très difficiles que s'apprête à vivre Tonneins, ici dans le Lot-et-Garonne.
Merci beaucoup Thibault Marcheteau, merci à Jules Bedeau qui vous accompagne. Peut-être une première réaction avec vous, Alexandre Devecchio, et on le disait, on est dans une séquence qui est malheureusement terrible, où ces drames s'enchaînent et on entend ces témoignages des familles. On pense évidemment à la famille de cette petite qui a pris perpétuité ce soir et qui va vivre un enfer.
Oui, la première réaction, c'est d'abord une réaction d'émotion et de compassion pour la famille. Ensuite, les affaires sont d'une certaine manière assez différentes. Alors là, le résultat est le même et tragique, mais dans l'affaire Lola, il y avait une dimension politique du fait qu'elle ne devait pas être sur le territoire. Ça posait la question des OQTF. Là, il n'y a peut-être pas cette dimension politique-là, si ce n'est que si
on veut avoir
le profil du suspect est quand même...
On y viendra.
On y viendra peut-être. Je laisse Julien Drey réagir s'il le souhaite.
D'abord, c'est un drame, mais c'est... n'y a rien de plus terrible pour des parents que de perdre leurs enfants comme ça. Donc, dans un premier temps, on est sans mots, on est solidaires, mais bon, cette solidarité, c'est de l'affection qu'on a pour eux, mais pas grand-chose par rapport au drame qu'ils subissent. Après, si vous me permettez, j'ai un peu de colère. J'ai un peu de colère parce que on n'est pas totalement désarmé face à ces monstres. Ce sont des monstres. Ils ont quelque chose en eux. Voilà. On n'est pas désarmé face à ces monstres. Et le problème, c'est que on sait un certain nombre de choses maintenant par l'expérience. Alors je vais me permettre ce témoignage. Quand j'ai été parlementaire, j'ai été amené à recevoir l'association des parents d'enfants qui ont été assassinés ou victimes. Et ils m'avaient montré quelque chose qui m'avait énormément frappé. Ils avaient fait un tableau et ils avaient pris le parcours de chaque tueur en série ou tueur d'enfants, etc. Et ce qui était étonnant dans ce parcours, ça m'avait sauté aux yeux, c'est qu'il y a toujours des signes d'alerte. Tous. C'est pas quelqu'un qui passe ponte, qui un matin se lève et devient un monstre. Il y a toujours des signes d'alerte. Il y a même souvent une condamnation. Ah oui. Et c'est souvent après cette première condamnation que ça bascule dans l'horreur. Ça veut dire que ces personnages-là, alors on les connaît pas tous, on les a pas tous identifiés, mais c'est pas la faute à pas de chance, comme vont le dire certains. Non, il y a des signes. Et on a une société qui, par rapport à ce type de criminel, avec l'expérience qu'on a, n'a pas les armes, ou ne déploie pas les armes qu'il faudrait. Le suivi psychologique, la prise en charge, et surtout le contrôle.
Et
le contrôle.
Ça va être la question.
Et quand il n'y a pas de contrôle, ouais. Et le contrôle systématique. Alors, c'est pas les personnels judiciaires qui sont en cause, parce que en général, ils ont des dossiers à tour de bras, leur reçoivent quelqu'un, ça va, oui, ça va, j'ai regardé un peu, oui, oui, monsieur le juge d'application des peines, tout va bien, etc. Non, c'est un contrôle régulier, ça nécessite un suivi. Il faut, les psychiatres vous disent eux-mêmes que par le suivi, souvent, on voit les choses.
Bah bien sûr, les faisceaux d'indice. Et ça va être la question.
Et je vais raconter, c'est terrible, parce que ce que je dis, j'ai pas de solution. Mais on sait que quand commence un crime, souvent il y en a plusieurs autres qui ont lieu derrière. Parce qu'il y a un effet médiatique, c'est terrible à dire, mais que ça libère quelque chose, c'est ces monstres-là, qui se disent, puisque lui l'a fait, alors moi maintenant aussi je peux le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. Hein. Non, je veux dire, vous voyez, c'est une alerte. Que, voilà. Donc il y a un système qui ne va pas. Voilà.
Vous l'avez dit vous-même, Julien Drey, ce qui pose problème dans beaucoup de cas, ce qui pose de nouveaux problèmes là, c'est que souvent ils ont une condamnation. Et là encore... une condamnation, alors il était mineur, mais pour agression sexuelle et viol quand même, sur d'autres mineurs. D'ailleurs, ça devient une question, le viol des mineurs par d'autres mineurs, et il a fait 15 jours de prison, je crois. Alors après, je ne sais pas s'il y a eu le suivi psychologique dont vous parlez, mais
il
15 jours...
Il n'était pas inscrit au fichier des
et
auteurs
ensuite,
d'infractions sexuelles. On entendra le procureur dans un instant.
Une faute de l'administration parce qu'il n'était pas inscrit, mais déjà... Il faut plus d'éléments sans doute, mais 15 jours de prison pour agression sexuelle et viol, ça paraît extrêmement faible comme condamnation. Et je regrette toujours que les juges qui ont instruit ce type d'affaires, enfin qui ont remis des jugements dans ce type d'affaires, ne s'expriment jamais, n'expliquent jamais pourquoi ils ont pris telle ou telle décision. Mais il y a un principe de responsabilité
aussi. Dans ce travail qui a été fait justement, ce qu'on voyait justement, c'est que d'un certain point de vue, la prison par rapport n'était pas... une solution par rapport à la première condamnation, hein, je veux dire, pas à la suite, après. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'en général, même ça basculait après, dans l'horreur. Parce que il faut savoir une chose, c'est que ces gens-là, quand ils vont en prison, on les appelle les pointeurs, et alors là, c'est l'horreur absolue. Bon, et donc, ils sont encore plus violents en sortant. Ça veut dire que c'est un autre système. Canadiens et les Québécois ont énormément travaillé là-dessus. Donc, ils ont un énorme système préventif, avec une visite une fois par semaine, chez des délinquants de cette nature, avec une discussion, avec un suivi. Et le problème qui est dû, il faudra regarder le dossier, mais je pense que le suivi...
Alors, il n'y avait pas de suivi. Il n'était pas inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
15 jours de prison, on ne peut pas incriminer la prison dans ce cas-là, je pense.
Bien sûr, mais écoutons le procureur d'Agen.
15 jours de prison, on ne peut pas incriminer, on ne sait pas ce qui s'est passé.
On n'est qu'au début de l'enquête, bien sûr. On n'est qu'au début de l'enquête et il faut saluer le travail des forces de l'ordre. On y reviendra parce qu'il y a aussi les vidéosurveillances qui ont permis aux policiers d'interpeller. Quand on pense que certains maires aujourd'hui refusent ces vidéosurveillances, mais on y reviendra. Restons sur le profil.
Mais la vidéosurveillance, elle n'empêche pas.
Non, elle n'empêche pas, mais c'est-à-dire qu'il a été interpellé en l'espace de quelques heures seulement. Connu des services de police, âgé de 31 ans, déjà condamné pour agression sexuelle, il n'était pas répertorié dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. On va écouter le procureur d'Agen sur le profil du suspect.
Il a été poursuivi quand il était mineur pour des faits d'agression sexuelle. Ancien, Il avait lui-même 15 ans quand il a été poursuivi et déclaré coupable sur ses faits d'agression sexuelle sur mineur. Avait été condamné pour des faits commis en 2006 à une peine de 15 jours d'emprisonnement qui avait été intégralement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 2 années.
À présent de Georges Fenech sur le profil.
Un individu qui a déjà été condamné pour des agressions sexuelles et donc qui manifestement souffre de troubles psychologiques ou de troubles concernant sa sexualité et qu'on a finalement relâché dans la nature sans aucun contrôle. D'ailleurs, le procureur l'a dit, il ne faisait l'objet d'aucun contrôle judiciaire, d'aucune surveillance. C'est la question qui sera sans doute dans le débat pour savoir pourquoi effectivement cet individu qui a déjà commis une infraction pour laquelle il a déjà été condamné n'était pas sous le coup d'une surveillance, d'un traitement, d'un système de sanitaire et social, en tout cas.
C'est toute la question qui va se poser à présent. Est-ce que ce drame aurait pu être évité, et toute l'enquête va pouvoir répondre à cette question-là, Julien Drey?
Oui, parce que, bon, on voit bien quand même, c'est pas si simple que ça. Hein. 2006, 2022, ouais. 16 ans sont écoulés. Alors, vous voyez, on aurait pu penser que. Donc, oui, mais je pense que notre système, si vous voulez, par rapport à ce type de monstres, qui ont des personnalités assez d'ailleurs atypiques peut-être par rapport à la norme, mais qui ont des profils qui souvent se ressemblent les uns aux autres quand on enquête, elle ne sait pas ou elle n'a pas les moyens ou ne sait pas donner les moyens de prendre en compte ce type de monstre-là, ne sait pas les gérer, ne sait même pas les gérer dans l'univers pénitentiaire. Voilà. C'est-à-dire, ces gens-là, si on va en prison, quand ils ont fait leur premier délit, ils doivent être énormément suivis dès le début. Voilà. Il ne s'agit pas de dire, bon, on l'a mis en prison et puis on passe à autre chose.
Mais on voit bien qu'on est dans une société qui fait de la liberté individuelle un absolu, à part quand pendant la période du Covid, mais sinon on voit très bien que c'est compliqué, que les juges répugnent d'une manière ou d'une autre à priver les citoyens de liberté. Alors les priver par l'enfermement et la prison, dans des cas d'agression sexuelle et de viol, alors je ne sais pas s'il faut les mettre dans la même prison que les autres, mais ça me paraît assez grave pour les mettre en prison. Mais même, admettons qu'il était mineur, qu'il n'allait pas passer le reste de ses jours en prison, il aurait dû avoir une forme de surveillance. Hein. C'est le même problème qu'avec les fichiers S. C'est-à-dire qu'on n'ose pas mettre en place une forme de contrôle social pour des gens qui sont des menaces pour la société. Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment le vrai problème. Il faut changer de philosophie des juges par rapport à cela.
Je pense juste aux téléspectateurs qui voient marqué. Excuse-moi, Julien.
Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas assez de spécialistes.
Et c'est un manque de moyens, bien sûr.
Qui puissent suivre ce genre d'individu.
Permettez-moi de vous couper, mais je pense aux téléspectateurs qui regardent les informations.
En tous les cas, ça se suit, ça se dépiste. On a des signes. Julien, il y a toujours des signes avant-coureurs dans ce type de comportement.
Juste pour les téléspectateurs, puisqu'il y avait sur cette infographie, il y a marqué n'était pas au fichier, au FIGES. Peut-être qu'ils ne connaissent pas le FIGES. Nous non plus, peut-être. C'est le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles qui recense les personnes majeures ou mineurs condamnés pour certaines infractions sexuelles ou violentes. Ces personnes doivent indiquer leur adresse aux autorités à intervalles réguliers. Une personne fichée peut demander sous condition la communication de ces données, leur rectification ou leur effacement. Ça permet en fait quand même de contrôler quand même ces agresseurs sexuels.
La mise en place de ce fichier est assez récente et je crois qu'en 2006 il n'existait pas.
Et donc c'était pas rétroactif. Et donc c'est une question qui peut se poser. Autre question très importante, et ce qu'il faut noter, c'est la rapidité avec laquelle les policiers ont pu interpeller le principal suspect grâce aux 28 vidéosurveillance qui était sur place. Le colonel qui en parle.
C'est d'abord une enquête de voisinage, c'est-à-dire qu'on fait du porte-à-porte pour avoir l'avis des gens, si des personnes, effectivement, des témoins. Il y a les analyses vidéo, etc. Donc on essaye de construire ce petit puzzle, sachant que vite, il faut aller vite parce que derrière, il y a une vie qui est en jeu. Je veux dire, quand on est saisi, on espère toujours qu'il n'y a pas de victime, justement, et que la personne enlevée, la petite, est toujours vivante.
Vous venez d'entendre Jean-Christophe Couvi, qui intervient régulièrement chez nous. On va écouter le colonel qui était présent lors de cette conférence de presse et qui revient sur l'action des forces de l'ordre.
À 18h45, quand la maman de Vanessa sonne à la gendarmerie de Tonneins, tout de suite, le travail de la gendarmerie commence sous plusieurs aspects. On ne néglige aucune piste, naturellement. Et comme il a été précisé, que ce soit une enquête de voisinage déplacements de patrouille et d'alerte sur le terrain se mettent en place. On commande également la présence d'une équipe cynophile dans le cadre de la recherche de cette personne. Et un travail sur la vidéoprotection de la ville est débuté peu de temps après l'arrivée de la maman de Vanessa à la brigade de Tonneins. Ce travail de vidéoprotection permet pas de voir précisément les faits, la commission des faits d'enlèvement, en tout cas sur le secteur de Tonneins, mais permet d'identifier et de voir la jeune fille passer à quelques endroits dans la ville, et plusieurs véhicules se trouvant sur place sont observés, et notamment un véhicule qui, dans la concomitance des temps, nous intéresse plus particulièrement.
Et c'est le véhicule du suspect, du principal suspect, qui est passé aux aveux. Et c'est en quelques heures, ils ont réussi à interpeller cet individu. Alexandre Devecchio, on comprend à quel point il est important aujourd'hui d'avoir ce système de vidéosurveillance qui fait polémique dans certaines communes.
Hélas, effectivement, on est obligé d'en arriver là. Moi, j'avoue que je faisais partie de ceux qui n'aimaient pas forcément l'idée d'avoir des caméras de surveillance partout, mais on est atteint un tel degré de violence dans la société aujourd'hui. Je crois qu'elles peuvent être utiles pour ce genre de cas qui demeurent rares, mais aussi pour les cas d'agression qui, dans certains quartiers, sont multiples. Mais les caméras de vidéosurveillance ne règlent pas tout. Dans certaines cités, elles sont immédiatement détruites. Donc, il faut aussi du personnel policier. Il faut aussi que la justice fasse, je crois, son travail. Je reviens sur l'idée que, malgré tout, on est dans une société dans laquelle la philosophie du droit, c'est quand même de protéger les droits de l'individu. Et c'est très bien qu'il y ait des droits pour l'individu, mais il faut penser aussi aux droits de la société, si vous voulez. Et je pense qu'il y a un meilleur curseur, un meilleur équilibre aujourd'hui à trouver entre les deux.
Alors, deux choses. D'abord, moi, j'ai jamais eu de problème philosophique avec la vidéosurveillance. Je pense qu'il en faut, qu'elle est utile. Mais en même temps, la vidéosurveillance, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Parce que la vidéosurveillance ne peut pas se substituer à une police de proximité, de quartier, qui circule, qui soit auprès des établissements scolaires, qui soit présent. Or, le problème, c'est qu'on a beaucoup réduit les effectifs de gendarmerie et de police, notamment dans ces zones périphériques, rurales, etc. Parce qu'une voiture qui tourne, c'est déjà un élément qui rassure d'abord, qui peut regarder ce qui se passe, qui voit les voisinages, qui, quand il voit une voiture suspecte auprès d'un
contrôle,
voilà, se met à
dissuader, etc. Hein,
bien sûr,
ça
dissuade.
Donc il faut, malgré tout, je sais que ça a été un débat, mais je pense que cette police de proximité, elle a été réduite aux acquis, comme on dit, et on en paye parfois les conséquences. Ça, donc c'est pour ça que la tentation a été forte de dire on va mettre des vidéosurveillance. Et on va, ça va.
Non, mais ça peut être un complément.
Ben justement, c'est comme ça qu'il faut concevoir les choses.
Oui.
Il faut du bleu sur le terrain, comme on dit, c'est la formule.
Bien sûr.
Du policier de proximité, oui. Policiers et policières de proximité, qui sont là à la sortie des écoles, qui ont l'habitude, qui sont vite en alerte parce que les gens disent on a vu un. Voilà. Et il faut la vidéosurveillance, d'ailleurs, c'est complémentaire. S'ils sont,
c'est exactement ce que je vous disais, mais vous avez certains maires.
Grâce à la radio, oui. Dès qu'il y a un problème, on dit.
Mais vous avez certains maires qui voient ça comme un problème, la vidéosurveillance, oui, qui refusent de financer la mise en place de vidéosurveillance dans des quartiers
sensibles. Il y a un débat avec, je vois bien avec qui, mais pour l'essentiel, en général, les. Maintenant, c'est en train de s'installer un peu partout.
Dans les grandes métropoles, notamment, qui sont aujourd'hui beaucoup frappées par l'insécurité, notamment à Nantes, oui, il y avait effectivement un débat là-dessus. Et ce que je disais, moi franchement, c'est pas quelque chose qui me réjouit, les caméras de sécurité, mais à un moment donné, il faut être pragmatique et face au réel, prendre, je crois, les mesures qui s'imposent. Après, je suis d'accord avec Julien Dray sur le problème des effectifs. Je pense que, je le rappelle souvent, la droite a commis une erreur historique avec la réforme des RGPP, la suppression d'un fonctionnaire sur deux, notamment dans le régalien et notamment dans la police.
Si vous me permettez, continuez le débat sur la question des libertés individuelles. C'est pas le problème, je m'excuse de le dire, je sais que c'est un débat difficile, parce que spontanément, le réflexe qu'on a tous, c'est qu'on ne supporte pas ces monstres-là, qu'on veut les éliminer, ou en tous les cas les mettre à l'écart.
De la société, pour protéger la société.
Pour protéger la société, mais c'est un réflexe totalement naturel, et on l'a tous. Maintenant, si on ne comprend pas que ce genre d'individus doivent être traités dans le temps, durablement, avec un suivi, un soutien, on ne s'en sortira pas. Vous pouvez en enfermer deux, trois. Dans les premières agressions, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'avoir 15 jours, on y aurait mis 2 ans. D'accord. Mais les gènes en lui-même de cette violence n'aurait pas été éliminé.
Il faut
un énorme soutien. Et vous savez, l'administration pénitentiaire, par rapport à ce type de personnage-là, elle est totalement désarmée.
Et on ne dit pas forcément des choses inverses. Quand je parle de privation de liberté, hélas, pour les juges, même le fait d'instaurer un contrôle permanent, d'avoir une obligation de soins, c'est quelque chose de compliqué. On voit bien que pour ceux qui fument du crack à Paris, il n'y a pas d'injonction à se soigner, ils ne sont pas obligés de s'enfermer. Donc ça va au-delà du fait de l'emprisonnement. L'emprisonnement n'est pas toujours la solution, mais au nom des libertés individuelles, on estime que ce type d'individus, une fois qu'ils sont libérés, ils peuvent rester dans la nature comme ça. Je pense que c'est quand même un problème. Si vous voulez les soigner, qu'il y a un suivi strict, il va falloir faire évoluer le droit dans ce sens.
Je retiens dans ce que vous dites, Alexandre Devecchio.
Le problème qui est posé, je suis à peu près, je ne connais pas bien le dossier, mais normalement, quand vous avez ce type de condamnation, vous devriez avoir la protection judiciaire de la jeunesse qui est mobilisée. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a un membre de la protection judiciaire de la jeunesse qui est chargé d'aller suivre cette personne-là, au moins jusqu'à sa majorité. Donc, il vient régulièrement, qui va lui demander des rendez-vous, qui va regarder discrètement ses fréquentations, qui va regarder ses ordinateurs, et qui doit faire un rapport régulier. Voilà. Si vous n'avez pas ça, vous laissez, laissez les choses dégénérer malheureusement. Voilà.
Pour traduire ce qu'a dit Alexandre Devecchio et Julien Drey, peut-être que, et vous me direz si je me trompe, le problème pour vous, c'est la justice. C'est que dans la philosophie de la justice aujourd'hui, pas que les moyens, c'est la remise de peine au moment de la sanction. C'est la réinsertion qui est dans la philosophie permanente de la justice au lieu de protéger la société.
Je ne suis pas manichéen, il peut y avoir de multiples facteurs, mais je pense qu'il y a un problème sans doute avec les juges aujourd'hui, parce qu'au-delà de cette affaire, on sait assez peu sur cette affaire, mais comme l'a dit lui-même Julien Drey en préambule, la plupart des faits... les plus tragiques auxquels on assiste aujourd'hui, c'est toujours des gens qui ont des casiers et qui ont eu une condamnation, voire de multiples condamnations. Alors là, il a une petite condamnation. Et donc, je crois que c'est quand même
pour
révélateur.
Pour un terrible fait.
Révélateur.
Agression sexuelle.
Oui.
Petite condamnation pour agression sexuelle.
Pour agression
sexuelle. Parce qu'il était mineur, parce qu'il avait 15 ans.
J'ai lu parfois viol, mais le procureur là a dit agression sexuelle. Donc, c'était quand même, je pense, des choses relativement graves. Donc, je pense que oui, il y a un problème de philosophie, encore une fois, des juges, mais peut-être même des sociétés occidentales qui mettent trop l'accent sur la liberté individuelle. Or, à la fin, c'est la liberté pour personne, si vous voulez. Donc il y a une révolution philosophique à faire.
Dans un cas comme celui-là, vous voyez bien que ce n'est pas un problème de liberté individuelle. Il y a 16 ans qui sont écoulés entre-temps.
C'est donc il n'y a pas de suivi.
Donc c'est un problème de moyen. On peut s'en prendre au juge en disant les juges sont laxistes, mais c'est un problème de moyen, de suivi, et de suivi dans le temps.
Dans le temps, bien évidemment.
Les Canadiens ont cette formule, les Québécois avant, intensité, continuité.
Intensité, continuité, la publicité, on revient dans un instant et évidemment nos pensées vont pour celle de la famille de cette petite de 14 ans. Dans la deuxième partie, on va parler de l'immigration avec un dossier extraordinaire du Figaro. Et ça tombe bien que vous soyez là, Alexandre Devecchio, sur l'évolution de l'immigration et dans la population française. L'Ocean Viking, chronique d'un fiasco annoncé. On reviendra sur l'électricité, le gouvernement qui est désavoué puisque on craint des coupures d'électricité en janvier, alors que Emmanuel Macron nous promettait qu'il n'y aura pas de coupure parce qu'il y a l'Europe. Et grâce à l'Europe, pas de coupure. Finalement, on a encore de la chance puisque la télé fonctionne pour l'instant, mais peut-être que ça sera coupé dans pas longtemps. Allez, la publicité, on revient dans quelques secondes. Quasiment 19h30 sur CNews, la deuxième mi-temps de Ça se dispute avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. Dans 30 minutes, Éric Zemmour sera l'invité exceptionnel de CNews face à Mathieu Bock-Côté. Donc restez avec nous à 20h, donc Éric Zemmour face à Bock-Côté ce soir en direct sur notre antenne. Avant cela, commençons le débat, mais avant le débat, le point sur l'information.
Le corps d'une adolescente de 14 ans retrouvé dans une maison abandonnée dans le Lot-et-Garonne. Un homme de 31 ans a été placé en garde à vue après avoir rapidement avoué le meurtre de la jeune fille par étranglement. Le trentenaire serait connu des services de police pour violences sexuelles. Il aurait enlevé l'adolescente hier à la sortie de son collège. À Bayonne Pro et Anti-Corrida sont dans la rue, des rassemblements organisés suite à la proposition de loi du député LFI Émeric Caron d'interdire la corrida. Proposition qui sera soumise au vote de l'Assemblée jeudi. Les défenseurs des spectacles taurins avaient rendez-vous en fin de matinée devant la mairie de Bayonne et depuis 13h30, les Anti-Corrida ont manifesté à leur tour. Et puis Rishi Sunak en visite surprise à Kiev. Le nouveau Premier ministre britannique est arrivé ce samedi dans la capitale ukrainienne. Il s'agit de sa première visite en Ukraine depuis sa prise de fonction. La Grande-Bretagne continuera à soutenir Kiev dans sa guerre avec la Russie jusqu'à ce que l'Ukraine ait gagné la paix, a-t-il déclaré devant le président Volodymyr Zelensky.
Merci cher Mickaël pour le point sur l'information. Mickaël Dorion, on va parler de l'immigration dans un instant, de l'Ocean Viking ensuite et de l'électricité après. Je vous promets un dernier thème, c'est une surprise, vous ne l'aviez pas dans les plans, c'est une surprise, un thème qui va beaucoup vous plaire à la fin de l'émission. Mais avant cela, c'est un dossier très intéressant du Figaro sur l'immigration en France et plus précisément sur la part d'immigrés dans la population, sur son évolution sur les 10 dernières années, d'accord ? Hors région Île-de-France, parce qu'en Île-de-France, et ça c'est important de le rappeler, la part d'immigrés représente une personne sur 5, quasiment 20% de la population et une augmentation de 2,5% en 10 ans. C'est dans les grandes métropoles et les villes moyennes que l'évolution est la plus importante. Ça progresse également dans les petites villes, mais moins vite. Mathieu Rio, journaliste CNews, décrypte tout cela et on commence le débat juste après.
La part d'immigrés légaux ou illégaux dans la population française augmente. Un habitant sur 5 en Île-de-France est né à l'étranger. C'est 7,59% dans les villes de province. Parmi les territoires où l'immigration a le plus augmenté en 10 ans, le Nord, où de plus en plus de migrants clandestins tentent de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. En une décennie, la proportion d'immigrés a doublé à Grande-Synthe et quadruplé à Calais. À l'est de l'Hexagone, l'immigration est aussi en hausse, mais pour d'autres facteurs. Les immigrés comptent pour près de 17% de la population de Metz, avec la plus forte augmentation pour une métropole de province. Explication dans Le Figaro de Gérard-François Dumont, professeur de démographie à la Sorbonne.
Certains immigrants originaires du Maghreb, qui vivaient dans de petites communes de Lorraine touchées par la désindustrialisation, faute d'emploi, ont pu déménager considérant qu'il y avait plus d'opportunités dans la grande ville.
Autre explication selon lui, la mondialisation des flux migratoires.
À partir du moment où des membres d'une communauté s'installent quelque part, ils jouent le rôle de guichet d'accueil pour d'autres personnes de la même origine.
C'est le cas à Metz, mais aussi à Bordeaux, Soissons ou Vernon. Enfin, la part d'immigrés peut aussi augmenter à cause des politiques locales. Rennes, Nantes étaient des zones où il y avait traditionnellement peu d'immigration. Ces villes sont désormais au-dessus de la moyenne nationale. En France, près d'un habitant sur 10 est immigré.
Voilà pour les chiffres. Le décryptage avec vous, Alexandre Devecchio.
Non, ce qui est frappant, c'est que ça augmente partout.
Partout.
Moi, c'est ce que je retiens. Grande, petite... petite ville, donc on nous dit on va les dispatcher sur tout le territoire. En réalité, c'est déjà fait et je pense que ça a malgré tout un lien avec la montée de l'insécurité dans certaines villes. Rennes et Nantes, ça a été cité, qui n'étaient pas des villes traditionnellement d'immigration. Mmh. Il y a une forme d'appel d'air et aujourd'hui, elles en payent les conséquences.
Soutenues par la politique publique.
Soutenues par la politique publique, ça renvoie à la subvention votée là par Anne Hidalgo, et ce n'est pas la seule, le maire de Lyon a fait la même chose. À SOS Méditerranée, ce n'était pas la première fois. Chaque année, ces villes-là envoient des subventions à ce type d'association. Je pense qu'elles vont avoir un problème à un moment donné avec leurs habitants, qui sont plutôt des sociologies de bobos, plutôt pour l'ouverture, etc. Mais quand ils vont commencer à avoir les conséquences, ça va être plus difficile. Et moi, j'ai presque une proposition disruptive. Je me dis que ces villes-là qui financent ce type d'ONG, qui en plus ont des liens avec les passeurs, devraient prendre en priorité finalement.
J'imagine le bien-pensant qui regarde ce reportage, oui, qui regarde le documentaire du Figaro. Il va vous dire, mais attendez, vous faites le jeu de l'extrémiste, des extrêmes droites. Vous êtes en train de nous parler du grand remplacement, là, avec votre documentaire.
Non, les chiffres parlent pas du grand remplacement, même si non. En Île-de-France.
Si j'étais bien pensant, je ne suis
en
pas.
En Île-de-France, il y a un véritable basculement démographique. Il suffit ça se voit. Et parce que cette enquête parle des chiffres des immigrés, mais parle pas des chiffres, et là on a un problème, de gens qui sont nés en France de parents étrangers, donc d'origine étrangère, et on a un problème d'intégration avec une partie de ces personnes-là. Il y a une partie qui s'intègre très bien et qui même représente une chance pour la France, mais il y a quand même toute une partie qui s'intègre mal. Donc il y a aussi les immigrés nouveaux, mais il y a aussi le stock. Et ça, c'est donc quand vous additionnez les deux, effectivement, dans certains territoires, il y a un phénomène de basculement des
Julien Drey, je n'ai pas la mémoire courte. Hier, vous avez dit on a un problème, on n'arrive pas à gérer nos flux migratoires. La preuve en chiffres.
On n'est pas dans la théorie. Les chiffres montrent par ailleurs que la théorie du grand remplacement n'est pas validé par ces chiffres-là. On n'est pas face à des hordes qui envahissent notre pays, mais il y a une progression substantielle qui correspond à beaucoup de mutations. C'est, l'augmentation à Calais, on sait à quoi elle est due essentiellement à la poussée qu'il y a d'immigration, mais vers l'Angleterre. Bien et donc, sûr. Comme on a fait un barrage à Calais et à Saintes, parce que c'est nous qui faisons le barrage, à la place des Anglais, d'ailleurs, d'un certain point de vue, on a aussi toute une partie de population qui finissent par rester dans le coin, etc.
Comme à Grande-Sainte, voilà. plus 20%.
Comme à Grande-Sainte. Ça, c'est la première chose.
20%, pardon.
Deuxièmement, l'évolution par rapport aux villes, c'est aussi une évolution économique. C'est-à-dire, vous avez des villes qui sont devenues de plus en plus dynamiques, qui n'étaient pas tout l'ouest. Est devenu dynamique, donc attractif, avec des mutations industrielles qui sont en cours. Vous avez des vieilles régions industrielles comme la Lorraine qui ont plus besoin de main-d'œuvre d'un certain point de vue. Puis vous en avez d'autres qui ont besoin parce que des usines sont créées, des activités nouvelles sont créées. Puis il y a tout un phénomène aussi qui est lié à un certain nombre de métiers, parce que c'est ça le fond de l'affaire. L'appel d'air, il est aussi lié au fait qu'il y a un certain nombre de métiers où il n'y a pas de main-d'œuvre française de souche, comme diraient certains.
Moi, je n'ai pas dit ça. J'espère que ce n'est pas à moi que vous allez la
faire. Il a dit certains, il ne vous a pas visé.
Pas vous êtes nommé. J'ai dit, il n'y a pas cela. Quoi. Je veux dire, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a des filières qui sont en pénurie de main-d'œuvre, qui sont même des fois quasiment paralysées. Et donc, il y a cet appel-là joue. Alors après, sur les villes frontalières, ce qui se passe souvent, c'est que ce sont des gens qui vont travailler, qui traversent la frontière, qui vont travailler dans les pays. Mais comme la vie est chère, je pense notamment à la Suisse, ils restent vivre en France.
Je vois que vous avez voulu faire le panorama complet et que finalement, ce qui se passe, par exemple, à Grande-Synthe, 20% de la population qui est immigrée. Mais restons sur l'Île-de-France, tiens, parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant. Parce que votre sondage, en tout cas votre étude, pardonnez-moi, au Figaro, il manque quelque chose. Il manque la part des Français issus de l'immigration. Et ça, on ne peut pas le chiffrer.
Non, on ne peut pas le chiffrer. Bah non, on comprend pourquoi on ne veut pas le mesurer, parce qu'on ne veut pas créer des distinctions entre Français, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien intégrés, mais on mesure, on le voit avec l'insécurité, notamment en Ile-de-France, avec les phénomènes de communautarisme, d'islamisme, qu'effectivement, il y a toute une partie de gens qui ont la nationalité française et qui sont un peu des Français de papier, qui n'aiment pas la France, parfois qui l'expliquent, ou qui ont des difficultés à s'y intégrer, aussi bien socialement que culturellement. Et donc là, ce qui est intéressant aussi avec cette étude, si je l'ai dit, c'est que ça progresse partout.
Partout.
Ça fait des années. On voit qu'il y a une réticence.
En 10 ans en plus, hein. C'est entre 2008 et 2018, c'est pas en 50 ans.
Les 10 dernières années, on a cessé de nous dire, mais c'est pas vrai. D'abord, on nous a dit, c'est pas vrai, il n'y a pas plus d'immigration, etc.
Aujourd'hui, ça, c'est quand on était
les chiffres commencent à. Il n'y a pas de lien entre l'immigration et l'insécurité. Tous les chiffres montrent aujourd'hui que c'est le cas et surtout que rien n'a été fait pour indiquer les choses, puisque ça ne cesse de progresser. Et donc là, on va faire une ultime loi sur l'immigration qui va se traduire par des régularisations de sans-papiers. En fait, il va rester que ça à la fin. En fait, il faudrait faire une loi sur la non-immigration. Je pense que c'est ça que demandent aujourd'hui les Français. Une méthode, peut-être pas pour arriver à l'immigration zéro, parce que c'est très difficile, mais pour suspendre au maximum les flux.
Et on va parler de l'Ocean Viking dans un instant. Un dernier mot avec vous, Julien, sur ce thème.
Bon, je répéterai. Si on avait
répétez. Allez-y, Julien.
Une politique de quotas, d'abord, les chiffres de manière plus régulière, et on ne serait pas obligé d'attendre un sondage ou je ne sais pas quoi, une étude. On saurait exactement où il en est. On n'a pas cette politique de quotas, donc c'est ça s'appelle la chien crevé au fil de l'eau.
Oui.
Voilà. Puis à un moment donné, on dit ah oui, voilà. Maintenant, il y a un problème d'organisation du travail en France. Il y a des filières professionnelles où il n'y a pas de candidats. Voilà. Et donc, évidemment, quand vous êtes un employeur, à un moment donné, vous pour l'activité... Voilà. Et alors, ça me permet de faire un petit clin d'œil, si vous me permettez deux secondes. Il y avait aujourd'hui une manifestation de l'enseignement professionnel, avec des milliers d'enseignants qui sont descendus, et on a méprisé toutes les filières de formation professionnelle ces dernières années. L'enseignement professionnel, qui était un enseignement de qualifiant pour des jeunes qui ne savaient pas bien où ils étaient, qui ne se sentaient pas bien dans le système scolaire traditionnel, avait connu une impulsion. Et puis maintenant, il est redevenu, je dirais, une sorte de filière où on met tous ceux qui sont pas bons, etc. Oui. Et ça aussi produit un manque de qualification, d'ouvriers qualifiés, de grands niveaux, etc., qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc on va chercher...
En 10 secondes, parce que je veux vraiment qu'on parle de l'Ocean Viking.
Il met le doigt sur quelque chose de très important, c'est la main-d'œuvre de substitution. Moi, je pense que c'est pas une solution. Vous avez donné, Julien, une partie de la solution, puisque vous avez dit qu'il faut améliorer les filières professionnelles. Il y a des endroits aussi où il faut augmenter les salaires. Le patronat a une responsabilité, a mis pression sur les politiques pour avoir une main-d'œuvre bon marché.
Je suppose que je vais avoir à un titre du Figaro qui s'appellerait augmenter les salaires. Mais
vous savez, on n'est pas au Figaro, on n'est pas stalinien. Il y a plusieurs sensibilités, donc on n'est pas tous dans le même bloc.
Trotskiste.
Je dirige des non, il n'y a pas que les trotskistes qui sont pour la justice, Julien Drey. Je dirige des pages où il y a de tout et de tous les points de vue. Donc
avançons.
La question de l'indexation des salaires demain devrait se poser, c'est une autre question.
Autre question.
Mais l'idée qu'il faille faire venir des esclaves, je crois que c'est pas une bonne solution et un homme de gauche ne devrait jamais cautionner ce type de choses.
Mais c'est pas ce qu'il a dit justement. C'est la solution de facilité.
Essayez toujours de m'entraîner là où je
suis
pas.
Non, je veux vous entraîner sur l'Ocean Viking.
Je vous démontre et je vous donne même un élément important.
Oui.
C'est que puisque le Figaro est ouvert, etc., je pense que vous devriez prendre position sur la réforme de l'enseignement professionnel qui est en cours. Vous
avez écoutez, ils sont en train d'y travailler, j'en suis certain.
Pour le coup, j'en suis certain.
Avançons l'Ocean Viking.
Il faut en l'enseignement de l'enseignement professionnel.
Je vais couper le micro si ça continue.
Deux secondes, parce que c'est ce genre de réforme qui passe inaperçu et malheureusement, ça coûte cher.
Bon, l'Ocean Viking, c'est la chronique d'un fiasco annoncé. Sur les 230 migrants présents sur notre sol, il ne reste plus qu'une dizaine de sans-papiers à Gien dans la zone de contrôle. Ils sont tous libérés, tous partis. Pourtant, le gouvernement promettait une réponse rapide alliant humanité, c'est-à-dire qu'il nous donnait des leçons d'humanité, et fermeté. La fermeté, on ne l'a pas vue. Et je vais vous poser la question parce que je trouve qu'on est quand même assez dur sur Gérald Darmanin. Tout le monde tape sur Gérald Darmanin, mais le problème, c'est peut-être pas la police, c'est la justice. Et Éric Dupond-Moretti, il est passé de acquittateur à fantomas. On ne le voit pas depuis une semaine. Donc vous allez voir le sujet de Vincent Fahandège et on va se poser cette question. Est-ce que ce fiasco, il était prévisible?
Nous sommes le jeudi 10 novembre dernier. Gérald Darmanin annonce que la France accueillera l'Ocean Viking et les personnes à bord.
Les personnes ne relevant pas du droit au séjour et de l'asile sur notre territoire feront l'objet de procédures d'éloignement sans délai.
Sur les 234 migrants, 189 sont adultes. Tous sont alors auditionnés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cinq jours plus tard, premier bilan donné par le ministre de l'Intérieur.
Pour les personnes qui se voient refuser leur demande d'asile, ces 40 personnes seront évidemment reconduites dès que leur état de santé, pour certains d'entre eux, le permettront dans leur territoire national.
Au final, 66 personnes se voient accorder le droit d'asile et 123 se voient refuser l'entrée sur le territoire. Hier, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a annoncé la remise en liberté de la quasi-totalité d'entre eux, la justice n'ayant pas eu le temps de se saisir de tous les dossiers dans les temps. Concernant les 44 mineurs accueillis, plus de la moitié d'entre eux a fui pour rejoindre de la famille. Le gouvernement, lui, admet que les règles ne sont pas bâties pour la pression migratoire actuelle.
La pression migratoire s'est fortement accrue ces dernières années en Europe et nos règles ne sont pas bâties pour cette situation.
Le projet de loi Asile et Immigration devrait établir de nouvelles règles. Il doit prochainement arriver au Parlement.
Est-ce que ce fiasco était prévisible, Alexandre Devecchio?
Oui, vous l'avez dit, j'y reviens, Julien Drey est jamais d'accord, mais sur la question du droit, des libertés individuelles...
Vous m'avez mis dans une case, et pour vous, je dois toujours être dans cette case-là.
Non, pas
du
tout.
Ça vous arrange peut-être, mais idéologiquement, les gens y réfléchissent. Ils ne sont pas forcément formatés comme vous le pensez.
Non, je vous mets pas dans une case, je dis souvent que je suis d'accord avec vous, mais par contre, sur la question des libertés individuelles, on en a parlé tout à l'heure, alors à moins que vous ayez changé pendant la coupure publicitaire, et comme vous l'avez dit, Elliot, oui, ils ont été relâchés par des juges des libertés, en l'occurrence, qui ont décidé que soit il y avait des vices de forme, soit c'était des mineurs isolés, enfin, bref, qu'on ne pouvait pas les garder. Donc là, il y a un problème, systémique. Il va falloir donner moins de pouvoir aux juges sur la question de l'immigration. Après, moi, je suis moins clément que vous avec Gérald Darmanin. Quand on n'a pas les moyens de sa politique et qu'on me fait des coups de menton, eh ben, il faut démissionner parce que je crois qu'il est quand même... il s'est pris trois Waterloo de suite, quoi. Le Stade de France, IQ-Sen, et là,
donc c'est pas
avec
le chien. Éric Dupond-Moretti, vous, pas de problème.
Non, mais
il a rien à se reprocher. C'est pas la justice, vous dites que le problème, c'est la justice, et non, vous tapez sur Gérald Darmanin.
Ils peuvent démissionner tous les deux.
Donc, finalement, Fantomas ne vous pose aucun problème.
Simplement, Moretti est cohérent. Moi, je suis en désaccord total avec sa politique, mais il prétend pas. Il a dit dès le début qu'il était pour libérer les gens. Et donc, ça pose, mais vous posez une bonne question, la question. D'un gouvernement totalement incohérent, avec d'un côté un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il faut plus de fermeté, plus de contrôle, plus de prison, et un ministre de la Justice qui dit l'inverse. C'est les limites du en même temps macroniste.
Julien Drey.
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je ne sais pas si c'était prévisible, mais vu le système qu'on a, on savait que ça n'allait pas fonctionner dans l'urgence. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, premièrement. Deuxièmement, attention, les juges des libertés, ce n'est pas des juges spécifiques. Hein. Tout le monde est juge des libertés. Ça, c'est une rotation, donc ne dites pas il y a des juges des libertés. C'est tout juge, à un moment donné, est amené à être juge des libertés, puis c'est un tableau de rotation, et à un moment donné, vous êtes obligé. D'ailleurs, souvent, on a des problèmes parce qu'il n'y a personne qui veut faire le juge des libertés, ça tombe comme ça au petit bonheur la chance. Bon, donc ce n'est pas le problème de la fonction des juges des libertés.
Vous parlez des juges en général. C'est le problème. Là, c'était les juges.
Oui, mais l'institution judiciaire, elle s'est d'un certain point de vue révoltée, mais elle prendra la parole. Elle s'est révoltée parce qu'on lui a demandé de travailler sur des choses. Elle est obligée de respecter des formes de droit. D'ailleurs, elle le sait. Pourquoi ? Parce que si elle ne respecte pas, toutes ces décisions sont invalidées après, en contentieux. Donc, voilà. Donc, la question qui est posée, c'est effectivement, il faut changer les règles du droit d'asile.
Et Éric Dupond-Moretti, acquittateur.
Si vous ne me laissez pas finir.
Non, parce qu'il nous reste 3 minutes.
D'accord.
Mais Éric, et je veux vraiment qu'on fasse un dernier thème.
Éric Dupond-Moretti, il a été malin, il s'est caché.
Ah bah, il s'est caché, c'est ça. Il s'est caché.
Oui, on est d'accord.
Si vous le retrouvez, Alexandre Devecchio, vous nous faites un signe. Bon, voilà. Dernier thème. On change de sujet complètement. Il nous reste 3 minutes. Et je le dis, à 20h, Éric Zemmour sera l'invité de Mathieu Bock-Côté sur ce plateau en direct sur CNews, émission exceptionnelle. Mais je vous ai promis un thème surprise. Est-ce que vous êtes allé sur Twitter aujourd'hui ? Est-ce que vous avez vu un sondage sur Twitter ? Est-ce que vous savez ce qu'Elon Musk a fait aujourd'hui sur Twitter ? Il a lancé un sondage pour demander aux gens, est-ce qu'il faut réintégrer Donald Trump sur Twitter ? Alors vous allez me dire, c'est pas très intéressant. Mais rendez-vous compte, il y a déjà 12 millions de personnes qui ont réagi. On va voir la question, c'est que dit le sondage ? 12 millions de personnes qui ont réagi à ce tweet. Peut-on voir le sondage ? Et pour l'instant, 52 personnes donc, sur Twitter, 52% des sondés ont dit oui, il faut le réintégrer, et 48 non. Donc je vous pose la question, est-ce qu'il faut réintégrer Donald Trump sur Twitter ?
Je vais être très court, il y a des talibans afghans sur Twitter. Donc je pense que l'ancien président des États-Unis doit pouvoir s'exprimer sur Twitter. Et le principe de Twitter, c'est que tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Donc, Même un porte-parole des talibans. Ou alors, il faut inventer de nouvelles règles, mais avec un minimum de cohérence. Moi, je pense qu'on est assez fort pour affronter les porte-paroles des talibans.
Non mais alors il y a plusieurs choses. Elon Musk fait une diversion parce qu'il a un problème majeur, c'est qu'au début il est arrivé, il allait pouvoir licencier des centaines.
Ça a été plus compliqué, effectivement.
Et ils se sont rendu compte que c'était pas aussi simple que ça.
Oui.
Et que son système, il peut se retrouver dans une situation où il est en dépôt de bilan. Donc il a, parce que c'est un homme très très habile et très intelligent et qu'il a le sens des affaires, il a trouvé une diversion. Moi j'ai pas de problème parce que monsieur quoi, c'est bon, plus moi je compte rien là-dedans, mais ça me pose pas de problème que monsieur Trump soit sur Twitter. La question c'est que s'il fait des dérapages racistes ou je sais pas quoi, il y a un modérateur qui soit capable d'intervenir. C'est pour ça que les talibans, ils ont peut-être le droit d'aller sur Twitter, mais s'ils font de la propagande islamiste, il doit y avoir des modérateurs qui les empêchent de faire cela.
Pour l'instant, c'est pas le cas.
Oui, 12 832 600 de votes pour l'instant à, quelle heure est-il ? 19h48, vous imaginez ? 12 millions de personnes qui ont réagi.
Il faut savoir une chose, vous avez peut-être...
les faux comptes, évidemment, mais voilà, c'est bon. Vox Populi, Vox Deli, voilà ce qui est Deli, pardonnez-moi.
La question de la liberté d'expression qui est posée, et je crois que beaucoup de gens ont le sentiment qu'il y a une liberté d'expression à géométrie variable.
Et il ne faudrait pas invalider, d'un certain point de vue, le vote des électrices et des électeurs américains qui ont quand même donné une leçon à M. Trump aux élections.
Une leçon.
300 candidats trumpistes ont perdu, ont été battus.
Mais oui, c'est vrai que c'est une défaite pour Donald Trump. Vous avez raison. Une leçon. Merci à tous les deux.
Merci.
Je ne le répéterai jamais assez. Dans quelques minutes, il y aura donc Éric Zemmour qui sera face à Mathieu Bock-Côté. Émission exceptionnelle à suivre. On va le débriefer, évidemment, dans Soir Info Week-end. Et c'est à 20h. Donc restez avec nous. Je remercie toutes les équipes en régie. Merci à tous les deux. Julien Drey, on se retrouve demain. Et merci de votre fidélité puisque vous étiez 500 000 hier. J'espère que vous étiez autant aujourd'hui. À tout à l'heure.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.